Seigneur Jésus-Christ, nous sommes réunis devant toi et nous voulons écouter ta parole. Mon but n'est pas de parler de moi, mais parler de toi, d'être un bon haut-parleur de ta grâce, de tes enseignements, afin qu'ensemble nous grandissions à ta lumière, Seigneur Jésus-Christ, à la lumière de ton Père céleste. Amen. Être disciple de Jésus. Ce sera la première de deux prédications que nous allons avoir ce dimanche et dimanche prochain. J'ai été pour 10 jours en Afrique du Sud, à Roodepoort, près de Johannesburg, et on a été enseigné, on s'est rappelé ensemble les fondements. Pourquoi est-ce qu'on fait des églises? Quel est le but d'une église? Est-ce que le but d'une église, c'est de se réunir le dimanche et puis après d'avoir fini? Est-ce que le but d'une église, c'est de chanter des jolis chants? Est-ce que le but d'une église, ce sera de s'organiser, d'avoir quelqu'un qui parle, et puis après, si quelqu'un a parlé, c'est bon, il y a eu l'église? Est-ce que c'est suffisant, ça? L'église est un outil. Elle n'est pas un but en soi. Et on est une des dénominations chrétiennes, on s'appelle l'église du Nazaréen. Et la mission de notre église, c'est la mission que Jésus a donnée. Faire des disciples à l'image de Christ parmi les nations. Faire des disciples à l'image de Christ parmi les nations. Et nous allons voir ensemble que faire des disciples, c'est pas seulement le boulot du pasteur. C'est le boulot de chacun d'entre nous. Est-ce qu'à votre avis, Yvonne, elle est trop jeune pour faire des disciples? Non. Est-ce que Eric est trop jeune pour faire des disciples? Peut-être que Héloïse y aura un petit peu à attendre. Mais je dirais, c'est assez jeune qu'on peut commencer, qu'on est invité. Est-ce que Jeffrey, il est trop jeune pour faire des disciples? Non. La question, c'est faire des disciples de qui? Quand j'étais jeune, je sentais qu'il y avait l'appel sur ma vie. J'étais pas chrétien. Mais je me disais, qu'est-ce que j'ai à donner? Et si moi-même je ne suis pas rempli de Dieu, de l'amour de Dieu, je n'ai rien à donner aux autres. Je suis inutile. Et nous allons voir quels sont les différents éléments pour être disciple et faire des disciples. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire être disciple ? Écouter la parole de Dieu. Et on va écouter ce que Jésus nous dit au dernier chapitre de Matthieu, verset 28, chapitre 28, 16 à 20. C'est juste après sa résurrection. Il y a déjà eu des premières apparitions et Jésus va venir leur dire ses derniers mots. Je vous lis le texte, la parole de notre Seigneur. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Les dernières paroles de Jésus. Ça n'a pas été commencer des églises, ça n'a pas été faites des synagogues, ça a été faites des disciples. Faites des disciples. Et je dois vous avouer que c'est très tentant de faire l'église, de jouer à l'église ensemble. Et quand j'étais en Afrique du Sud, le Seigneur me rappelait, Stéphane, n'oublie pas, ton but, c'est pas de développer une ou même d'autres églises. Ton but, c'est d'aider à faire des disciples. C'est les disciples qui feront grandir l'église ou les églises. C'est les disciples de Jésus-Christ, non pas de moi, mais de Jésus-Christ, qui feront que la parole de Dieu sera transmise. Et Jésus nous dit aussi de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand nous venons à la foi, en jeune chrétien, en nouveau chrétien, Être baptisé, c'est une façon de confesser notre foi, de dire « Je reconnais Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je reconnais que maintenant, c'est lui le chef de ma vie, c'est lui le maître. » Et après, au verset 20, il a dit « Enseignez-leur à observer certaines des choses que je vous ai prescrites. » C'est ça ? Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Nous, on aime bien garder certaines parties. On aimerait bien certains endroits. Par exemple, des mots pour les hommes qui ne sont pas faciles. Jésus dit, si tu as du désir dans ton cœur pour une femme et que ce n'est pas ton épouse, est-ce que c'est OK ? Non. C'est un péché similaire à l'adultère. Et tu as à te repentir. Et finalement, ça c'est quelque chose pour nous les hommes, les femmes aussi, mais c'est vrai particulièrement pour les hommes, nous avons à être très, très attentifs. Notre cœur est un lieu de combat spirituel. Quand nous ne sommes pas fidèles à Dieu, des conséquences vont en sortir. Et Jésus a enseigné beaucoup de choses. Et nous sommes invités à les apprendre, les étudier et les transmettre à d'autres. Et la première chose à se rappeler, c'est que être disciple, ça veut dire marcher à la suite de Jésus. Être disciple de Jésus, c'est marcher à la suite de Jésus. Je vous lis le verset sur la feuille en bas à gauche, sur la première page, 1 Jean 2, verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en Jésus doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Si nous voulons demeurer en Jésus, nous avons à marcher comme il a marché. La première question, c'est comment Jésus a marché ? Comment est-ce que Jésus a marché ? Une des erreurs que nous faisons des fois, c'est qu'on dit « Oui, Jésus est Dieu, mais lui, il n'a pas été tenté, il n'a pas eu de difficultés. » Il suffit de lire les évangiles pour prendre conscience que si, il y a eu des difficultés, il y a eu des défis pour Jésus, et il a montré le chemin. Comment Jésus a-t-il marché ? S'il est Dieu, est-ce qu'il a besoin de prier ? Il n'a pas besoin de prier puisqu'il est Dieu. Mais il est homme. Jésus était homme. Et en tant qu'homme, il nous a montré le chemin. Souvent, il prenait du temps en prière avec son Père. C'est le premier point. Il a passé du temps en prière avec son Père. On le voit dans Luc, chapitre 15, verset 6, qui nous dit que Jésus passait souvent du temps dans la prière avec son Père. Au moment important, il se remettait à Dieu. Il priait et il cherchait la face de son Père. Jésus a vraiment été homme pour nous montrer vraiment le chemin de disciple. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment marcher comme Jésus ? Le deuxième point, c'est qu'il a obéi à son Père. J'aimerais vous lire le verset Jean, chapitre 14, verset 31. C'est afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis comme le Père me l'a commandé. Jésus parlait. Pardon. C'est afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis comme le Père me l'a commandé. Ça, c'est la parole qu'il dit juste à la fin du temps qu'il passe avec ses disciples, juste avant d'être emprisonné. Jésus a agi comme le Père lui a commandé. Il n'a rien fait par sa propre volonté. Pourtant, il était Dieu. Il pouvait dire, j'ai envie de faire cela, moi, aujourd'hui. Non. Il a toujours fait comme le Père lui a demandé. Il a suivi en toute chose l'enseignement de Dieu. Troisième point. C'est un point fondamental. Jésus a jugé comme son Père a jugé. Jésus n'a jamais jugé quelqu'un par sa propre volonté. Il n'a jamais dit, celui-là m'a fait du mal, donc je lui en veux. Il a toujours jugé comme le Père lui a commandé. Je vous lis Jean 5, verset 30. Moi, je ne peux rien faire par moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. La volonté de mon Père céleste. Jésus juge comme son Père. Jésus cherche la face de Dieu dans la prière, cherche la direction de Dieu dans la prière. et agit en conséquence. Être disciple de Jésus-Christ, ça sera d'apprendre à faire cela. Quatrième point, il a parlé comme son Père a parlé. Jésus était Dieu. Il aurait pu décider ce qu'il pouvait enseigner. Il aurait pu déjà, à 12 ans, commencer son ministère, Jésus. À votre avis, est-ce qu'à 12 ans, il était capable d'enseigner? Est-ce qu'il aurait été capable d'être un super pasteur, un super ministre de Dieu qui mène à la voie de Dieu? Oui. Pourquoi est-ce qu'il a attendu 30 ans? Vous avez déjà réfléchi à ça? Pourquoi est-ce que Jésus a attendu 30 ans avant de commencer son ministère? Qu'est-ce qu'il a fait? Frédéric?
Pour l'autorité en tant qu'homme, déjà, peut-être autorité. Un moment moins d'autorité.
Peut-être. Eva?
Le temps n'était pas venu.
Le temps n'était pas venu. Autorité en tant qu'homme, on peut dire, il y a un niveau humain pour pouvoir être accepté par les hommes, mais ultimement, parce qu'il était obéissant à Dieu. Et parce que être pleinement soumis à Dieu en tant qu'homme, ça a été un apprentissage même pour Jésus, pour que toutes ses émotions ne puissent pas le détourner, pour que tout son être en tant qu'homme soit pleinement uni à Dieu, en lui. C'est ça le mystère et la victoire de Jésus. Jean, le chapitre 8, verset 28. Jésus leur dit: quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Jésus n'a rien fait de lui-même. Les seules choses, les seules paroles qu'il a dites, c'était celles que Dieu lui a dit de dire. Il ne s'est jamais dit « je vais enseigner à ma façon », même s'il connaissait beaucoup de choses. Il a toujours dit « Père, que veux-tu que j'enseigne? De quoi veux-tu que je parle ?» Et en tant que modeste serviteur de Christ, en tant que petit disciple, le Père, Dieu m'invite, en tant que disciple de Jésus-Christ, à vous parler de comment est-ce que vous allez être disciple. Comment est-ce que vous allez répondre à cet appel à être disciple de Jésus-Christ pour la gloire de Dieu et pour votre plus grande joie dans ce monde. Alors c'est vrai, Jésus était Dieu, mais il a souffert. Et nous voyons que obéir à Dieu n'était pas facile pour lui. Vous voyez sur votre feuille en bas à droite ou à l'écran, au jardin de Gethsémané. Certains d'entre nous, si on imagine que Jésus est Dieu et qu'on oublie qu'il était homme, nous ne pourrons pas comprendre ses paroles. Nous ne pourrons pas comprendre que Jésus ait eu des difficultés. Parce qu'on se dira, il est Dieu, donc il n'a pas de difficultés. Si, pour rester fidèle à Dieu, cela a été un combat pour Jésus. Un combat difficile, mais il l'a toujours mené à la victoire. Quand il était au jardin de Gethsémani, il savait déjà les souffrances qu'il allait endurer. Il savait déjà les souffrances qu'on allait lui faire subir. Il savait déjà les traîtrises, la violence qu'on allait lui montrer envers lui. Et il était désemparé. Il était désemparé et il ne savait pas comment il allait faire pour tenir. C'est pour ça qu'il dit à son père, à Dieu, « Mon père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Juste avant, il a dit « Si c'est possible, retire de moi cette coupe de souffrance, ces épreuves. Si c'est possible, Dieu, Jésus savait que la croix était importante. » Et il lui a dit « Si c'est ta volonté, que ta volonté soit faite. » Imaginez le père qui parle à son fils qu'il aime, qui lui dit « Je sais que tu m'aimes et je veux ton bien, je ne veux aucune souffrance dans ta vie. Mais tu vois toutes ces personnes qui se perdent, elles ont besoin que tu leur montres le chemin de l'obéissance jusqu'à la mort. Ta mort, je ne la veux pas. Ta mort, je ne la veux pas, c'est le diable qui la veut. Et je vais te ressusciter. Mais je te demande d'aller à travers ce puits de souffrance qui s'ouvre devant toi et y marcher fidèlement. Tout comme nous aussi, il y a des moments dans notre vie où on se dit « C'est trop difficile, je ne vais pas y arriver. » Et on est tenté de dire « Non, je ne peux pas. » Et nous sommes appelés à nous rappeler de la parole de Jésus. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Des fois, nos péchés nous ont entraînés dans l'esclavage. Par exemple, la drogue est un esclavage. La drogue, qu'est-ce qu'elle fait ? La drogue, elle déforme notre cerveau. Elle fait qu'après, on a du plaisir seulement avec cela. Une des drogues les plus fortes au monde, c'est l'alcool. Comment ça fonctionne ? Au début, je vais trouver que c'est bien de boire un peu d'alcool. Les scientifiques ont étudié, ils se sont aperçus que l'alcool libère ce qu'on appelle la dopamine dans le cerveau. La dopamine, c'est ce qui vous donne du plaisir, c'est agréable. C'est ce qui vous donne de la joie. Donc on se dit c'est une bonne chose. Mais l'alcool fait deux choses. Quand il vient dans votre cerveau, dans votre système, il libère de la dopamine. Il vous rend content. Mais il fait une deuxième chose. Il vous rend plus incapable de recevoir du plaisir à travers les autres façons de faire. C'est comme un maître qui vous rend esclave. Plus vous allez boire de l'alcool, plus le plaisir, vous ne le recevrez que par l'alcool. Ce qui fait qu'après, on se dit, mais ma vie n'a plus de sens. Ma vie ne me donne plus de joie. Pourquoi ? Parce qu'en étant prisonnier de l'alcool, les joies de cette vie, un bon repas, un temps entre amis, sont beaucoup plus petites. Qui c'est qui a fait ça ? C'est l'alcool, ce mauvais maître. Et pour se libérer de cela, nous avons à dire, Seigneur, je ne veux plus de ce mauvais maître qui a rendu cette vie inutile, cette vie amère. Que ta volonté soit faite. S'il n'est pas possible que cette coupe de souffrance, et pour quelqu'un qui a été esclave de l'alcool, ça sera la difficulté à prendre du plaisir dans cette vie. Si cette difficulté doit être là pour un temps, avec Jésus, on a à dire que ta volonté soit faite. Je vous donne l'exemple de l'alcool, ça peut être mille façons. Ça peut être nos façons de penser qui sont notre esclave, nos maîtres qui nous rendent esclaves. Le plaisir d'imaginer que quelqu'un va être puni. Ça peut être le jeu, ça peut être différentes formes. Mais en tout temps, quelle que soit la difficulté, Jésus a montré le chemin en disant que s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il est vraiment celui qui montre le chemin. Non seulement Jésus a montré le chemin, mais il a invité les autres à le suivre. Il a dit en Matthieu 4, verset 19, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Je vous ferai faiseur de disciples. Suivez-moi, devenez mes disciples, afin que je puisse vous faire vous-même faiseur de disciples. Vous voyez le petit dessin à droite ? Ça, c'est comment Dieu, comment Jésus-Christ a voulu que l'Église fonctionne. Ça va bien, j'ai ça même. Ça va bien, ça. Là, vous avez un petit visage, un petit sourire, c'est une personne qui est invitée à faire des disciples. Là, on a l'exemple, simplement si cette personne fait deux disciples. Deux disciples, non pas de lui, mais de Jésus-Christ, qui transmet l'amour de Dieu, le chemin de Dieu, qui aide à les former pour qu'ils soient disciples de Jésus-Christ. Comment est-ce qu'on est disciple de Jésus-Christ ? Comment on est formé ? On a besoin d'être corrigé là où on ne fait pas ce qui est juste, et d'être encouragé là où on fait ce qui est juste. Les deux. Souvent, on n'aime pas être corrigé, on veut seulement des encouragements. On a les deux. La formation en tant que disciple, c'est les deux choses. Être invité à se détourner du mal et à développer ce qui est bon par notre relation avec Dieu. Et si cette personne fait deux disciples et qu'il enseigne à ces deux personnes à faire des disciples, ça fera ensuite quatre disciples. Si ces quatre font de même, ça fera huit disciples. Quand Jésus est mort, il avait fait combien de disciples ?
Non.
Il n'avait pas fait plein de disciples. Il avait formé 12 disciples. 12 disciples. Il avait enseigné à beaucoup. Mais une relation de disciples, c'est une relation où on va interagir et on va corriger, encourager. Et c'est seulement avec les apôtres, les 12, qu'il va pouvoir le faire. Est-ce qu'on peut le faire avec 100 000 personnes, ça ? Non. On peut le faire avec un certain nombre limité. Tout comme dans une église, on a à se poser la question, qui est la personne qui me forme en tant que disciple ? Qui est la personne à qui je donne l'autorité de me corriger ? Vous avez bien entendu ? À qui je donne l'autorité de me corriger et de m'encourager dans ma marche en Christ ? Est-ce qu'il y a une personne dans cette assemblée que vous pouvez dire, à cette personne j'ai donné cette autorité ?
Non.
Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite dans les semaines qui viennent à prier, à vous dire, est-ce qu'il y a quelqu'un que je respecte suffisamment pour demander à ce que cette personne m'aide à être disciple en Jésus-Christ? Vous ne le serez pas par vous-même. Sans cette relation de disciple, vous ne serez pas en mesure de former. Pour ma part, quand j'étais en Suisse, en jeune chrétien, j'avais un prof, Yohanan, qui a été celui qui m'a formé en tant que disciple. Ensuite, aux États-Unis, j'ai eu une autre personne, un serviteur de Dieu, à qui j'ai demandé. En général, on demande plutôt quelqu'un de son sexe, si on est un homme, à un autre homme, ou bien à un couple. Si, par exemple, je sens une personne, une servante de Dieu, qui était dans l'assemblée quelqu'un, je me dis, ça, cette personne peut m'aider à être disciple de Jésus-Christ, il vaut mieux que cette personne soit, par exemple, mariée ou avec un autre homme, pour qu'elle puisse aider à vous former. Pour que la relation de formation de disciple ne soit pas un lieu ambigu, mais un lieu de formation, de croissance en Christ. Et si on est disciple et qu'on forme des disciples, alors l'Église grandit. Si vous n'êtes pas disciple, et j'aimerais vous dire, venir à l'Église le dimanche n'est pas suffisant pour être disciple, je ne peux pas vous corriger. Et vous avez besoin d'être corrigé. J'ai besoin d'être corrigé. Si vous n'êtes pas corrigé et encouragé, il y a les deux, corrigé, encouragé. Si vous n'avez pas cela avec une personne, un serviteur ou une servante de Dieu, je vais vous dire une réalité, un secret ou une vérité. Vous ne grandirez pas en Christ. Vous ne grandirez pas en Christ parce que vous n'êtes pas soumis à Dieu. Vous êtes soumis à votre idée de Dieu. Oh, elle est jolie votre idée de Dieu, mais elle est imparfaite. Et si personne ne peut vous aider à corriger cette idée de Dieu, alors vous êtes prisonnier de vous-même et vous ne croîtrez pas. Vous resterez des nains en Christ, des tout petits, des bébés en Christ, vous ne pourrez pas grandir. Parce que vous avez pour grandir besoin d'être encouragé. Ça, c'est une réalité dont nous avons chacun à prendre conscience. Alors, être disciple de Jésus et faire des disciples. Bon, d'accord, si on est disciple de Jésus, c'est la première étape. Si on a une relation avec quelqu'un qui nous aide à avancer dans notre marche avec Christ, qu'on est prêt à être corrigé. Et quand on est corrigé, on ne dit pas « oui, mais ». Ça vous arrive quand on vous fait un reproche de dire « oui, mais attends ». Il y a des gens, il faut parler 10 minutes pour que la personne dise « d'accord, ok ». Ça, ce n'est pas une attitude de disciple. Il faut d'abord savoir à qui je donne cette autorité de pouvoir, des fois, me corriger. Afin que moi-même, si je suis corrigé et encouragé, je vais pouvoir encourager et corriger quelqu'un d'autre. Non pas à me suivre moi, mais à suivre Jésus-Christ. Tant que vous n'avez pas appris à recevoir la correction, les gens ne recevront pas vos corrections. Tant que vous n'avez pas appris à être encouragé, vous ne pourrez pas encourager vous-même. Et ça marche comme ça, l'Église de Jésus-Christ. On reçoit et on donne. Et finalement, on est tous disciples de Jésus-Christ, mais Dieu veut utiliser l'Église pour être ce lieu de formation. Alors, qui choisir? C'est pas compliqué. Ça commence par vos maisons. Est-ce que vous avez des enfants? Pour les parents, c'est pas une option. Vos enfants ont à devenir disciples de Jésus-Christ et vous avez à être une des personnes clés pour vous former en tant que disciple. Yvonne, qui vont être les personnes qui vont t'aider à être disciple? Tu auras ton père et ta mère. Et tu auras d'autres aussi. Tu pourras dire, je peux demander à une personne en dehors de mes parents qui peut m'aider. Mais déjà, tes parents sont appelés et Colline est appelée à faire des disciples de ses enfants. Et toi, Colline, t'es appelé à être disciple. Les deux vont la main dans la main. Jeffrey, est-ce qu'à ton avis, ta maman est appelée à te former en tant que disciple de Jésus-Christ? Oui. Mais il faut que tu lui donnes l'autorité pour le faire. Et pour Eva, toi-même, qui te forme comme disciple? Et c'est ça la question qu'on va discuter. Et réfléchissez chacun pour que vous puissiez dire, ok, j'ai prié, je sens la personne qui peut me former en tant que disciple. Et comme règle que je donnerai, ça sera à la fin du sermon la semaine prochaine qu'on fera un temps de prière. Ça sera pas, il n'y aura pas de choses publiques, mais vous saurez dans votre cœur un peu vers où aller. Que quelqu'un qui forme un autre en tant que disciple, qui ait un moment par semaine de partage et de prière. Un moment de partage et de prière. Et je vous décrirai la semaine prochaine quel type de partage et quel type de prière. Mais déjà pendant cette semaine, je vous demande simplement de réfléchir. Quelle est la personne chrétienne, si possible dans notre église, mais ça peut être même au-delà, à qui je reconnais une autorité, quelqu'un qui, je crois, peut m'apprendre à grandir en tant que serviteur de Dieu, en tant que disciple. À qui je fais confiance pour être encourager et corriger, pour ouvrir ma vie, pour partager mes combats. À qui est-ce que je peux partager ça? Et c'est un sujet de prière. Si on est nouveau à l'église, il faut prier, il ne faut pas se presser, mais si on a été avec les gens pendant plusieurs mois, vous avez déjà une idée qui vous pourriez avoir comme encourageur pour être disciple. Donc, qui choisir les personnes proches? Est-ce que quelqu'un peut décider, toi, tu dois être mon disciple? Je vais venir voir une personne et je dis, toi maintenant, je vais faire de toi un disciple. Toutes les semaines, on se rencontre. Je vais te corriger, t'encourager. Rendez-vous mercredi soir à 5h du soir.
Ça serait beau.
Ça serait beau. Est-ce qu'à votre avis, ça marcherait?
Non.
Est-ce que vous êtes forcé de venir à l'église aujourd'hui?
Non.
Est-ce que vous êtes forcé de choisir quelqu'un qui va vous former en tant que disciple?
Oui.
Non. Vous n'êtes pas forcé, vous êtes invité. Vous n'êtes pas forcé. Donc je viendrai voir personne, mais je vais vous encourager à ce que vous ayez chacun une personne de référence. On peut choisir la personne qui va nous former, on ne peut pas choisir les personnes qu'on va former. C'est les personnes qu'on va aimer, qu'on va encourager, qui vont petit à petit venir nous voir et dire « Et vous, vous aurez à être consciente de qu'est-ce que c'est une relation de disciple ?» Et si vous voyez que ça se met en place, vous allez poser la question à un moment, si vous avez une relation où la personne semble chercher cela, vous allez lui demander, est-ce que tu veux être disciple de Jésus-Christ? Est-ce que tu veux que je t'encourage? Et vous allez faire du temps dans votre semaine pour rencontrer cette personne, pour prier et pour clairement discuter de la marche en Christ de cette personne. Un des fondateurs de l'église du Nazaréen, un des réformateurs, des serviteurs de Dieu, s'appelait John Wesley. John Wesley, c'était un serviteur de Dieu, mais il est devenu serviteur de Dieu parce qu'il avait une maman. Les mamans sont importantes. Et cette maman, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle avait 11 enfants. 11. Il n'y avait pas de machine à laver, il n'y avait pas de lave-vaisselle, il n'y avait pas d'aspirateur à l'époque. Donc le travail de femme de maison était important. Avec 11 enfants, elle prenait un temps avec chacun de ses enfants, chaque semaine, pour les former en tant que disciples. Elle leur demandait, où en es-tu avec Jésus? Comment est ta relation avec Jésus? Est-ce que tu as fait des péchés? Est-ce que tu as des choses qui sont difficiles? Et elle priait avec chacun de ses enfants, chaque semaine. Vous imaginez l'emploi du temps de cette maman? Et elle le faisait. Et c'est parce qu'elle l'a fait avec des gens, avec ses enfants. Le petit John Wesley était c'était un caïd, c'était un dur de caractère. C'était l'esprit scientifique. Il fallait tout lui démontrer à lui. Il fallait que ça soit très raisonnable. Mais elle s'est battue avec lui pour le former en tant que disciple. Et ensuite, quand il a grandi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pratiqué cela avec tous les gens avec qui il était. Il a commencé à enseigner comment on pouvait être disciple et faire des disciples. Parce que lui-même l'avait expérimenté. S'il ne l'avait pas expérimenté, il n'aurait pas pu enseigner. Et alors, l'Église grandit. Mais l'Église, d'abord, ce n'est pas le lieu où on est ici. L'Église, c'est les personnes qui appartiennent à Jésus-Christ et qui le reconnaissent comme Seigneur et Sauveur. L'Église, ça peut être une réunion de tous, mais ça peut être aussi des réunions dans des maisons à différents endroits. Ça, c'est aussi l'Église. L'Église, est-ce qu'elle a besoin d'un joli toit avec une jolie enseigne devant, avec un superbe parking?
Non.
L'Église, c'est nous, quand on est disciples de Jésus-Christ et qu'on forme des disciples. Alors, il y a Église. S'il n'y a pas de disciples, il n'y a pas d'Église. Qui choisir? Les personnes qui nous sont proches. Et quand vous avez une relation où vous voyez que la personne se sent encouragée dans la foi chrétienne, ça peut être un adulte, ça peut être un enfant. Peut-être par exemple que, je ne sais pas, Pierre, tu auras un neveu qui t'aime bien. Parle de Jésus avec lui ou avec elle. Si tu sens que c'est une relation où la personne te reconnaît une autorité. Et vois si un jour, il y a cette relation qui peut se mettre en place. Ça peut être le cas pour Alexandre, ça peut être Dominique, des personnes avec qui tu es en contact à travers ton travail ou des temps sur le bateau. Mais attention, on ne forme pas en tant que disciple juste en prenant du temps ensemble. On commence à mettre un cadre où la personne est prête à s'ouvrir par rapport à son cheminement, à reconnaître où elle en est et qu'elle veut avancer. Tant que ça n'est pas et vous ne pouvez pas le prendre, forcer la personne. C'est seulement la personne qui peut vous donner cette autorité, qui peut vous dire « je suis prêt et je veux entrer dans ce type de relation ». C'est plus qu'une amitié. C'est plus fort et c'est une plus grande responsabilité. Si vous faites ça, vous êtes invité à prier pour la personne. Vous êtes invité à être sérieux, à être fidèle aussi, à des rencontres à peu près chaque semaine. C'est un bon rythme, je pense, de s'imaginer chaque semaine. Ça n'a pas besoin d'être 3 heures, ça peut être une demi-heure, ça peut être plus. Mais c'est important de prendre conscience de la régularité qui est un point clé. Ensuite, si vous voulez former des autres personnes à être disciples, la première chose, c'est en suivant Jésus, vous devez montrer l'exemple. Vous devez marcher avec Jésus et montrer l'exemple pour que l'autre puisse marcher avec Jésus. Les personnes ne seront pas disciples de vous. Elles seront disciples de Jésus-Christ. Mais vous serez la personne qui les forme à être disciples de Jésus-Christ. Vous serez le canal que Dieu veut utiliser pour former les gens. Former des serviteurs de Dieu. Le troisième point, après montrer l'exemple, c'est être avec. Prendre du temps ensemble. Pour que les personnes puissent voir comment vous réagissez. Et puissent vous dire, « Ah oui, je vois comment tu fais dans ton couple. Ça, je peux l'appliquer dans mon couple. » Enseigner, c'est des moments où vous expliquez plus clairement des points clés par rapport à la foi que vous partagez. Et pendant les semaines qui viennent, j'essaierai de développer toujours plus pour que tous ceux qui non seulement se développent en tant que disciples, mais commencent à former d'autres en tant que disciples, vous ayez des éléments clés à partager et que vous sachiez, ok, comment on fait ça? Et un des points clés, ça va être le mardi soir. Le mardi soir sera un moment où j'invite les personnes à être des personnes qui acceptent quelqu'un qui les forme en tant que disciples. Le mardi soir, si vous ne pouvez pas dire « je suis disciple de Jésus-Christ » et j'ai quelqu'un à qui je reconnais cette autorité, je dirais cette réunion ne sera pas très utile. Je vous invite à ce que le mardi soir soit un moment où vous venez en sachant « je suis formé en tant que disciple et je veux former d'autres en tant que disciples ». Et je vous donnerai des éléments pour pouvoir avancer dans cette marche. Et pour ceux qui seraient à 3 bassins, par exemple, on verra une façon de faire pour que vous puissiez avoir des éléments, si vous le souhaitez. Enseigner et superviser. Superviser, c'est encadrer la personne, encourager. Dire oui, c'est bon ou non, c'est pas bon. Quatrième point, n'oubliez jamais, toute personne dans ce monde a besoin de voir Jésus. Est-ce que les personnes vont voir Jésus à travers vos yeux? Est-ce que les personnes vont voir Jésus à travers votre exemple? Toute personne dans ce monde a besoin de voir Jésus. Voir un exemple de marche avec Christ. Cet exemple, rien ne pourra le remplacer. Nous sommes appelés à être des exemples, pas pour nous, pour les autres, qui cherchent dans les ténèbres, qui désirent une vie qui a du sens. Être disciple de Jésus-Christ, marcher comme Jésus, montrer Jésus à travers qui nous sommes, c'est notre tâche de chrétien. Jésus, à la fin de sa vie, dira à ses disciples, « Vous avez vu le Père. » Et un de ses disciples lui dira, « Nous n'avons pas vu le Père. Montre-nous. » Qu'est-ce que va dire Jésus? Philippe, qui m'a vu a vu le Père. Tout ce que le Père dit, je le fais. Est-ce que vous pouvez dire, si je demandais à l'un d'entre vous, montre-moi Jésus, est-ce que vous pourriez me dire, mais, si tu m'as vu, tu as vu Jésus? Tout ce que je fais, c'est ce que Jésus m'a demandé. Est-ce que vous êtes au stade où vous pouvez déjà faire ça? Ou est-ce que vous aimeriez pouvoir dire cette parole? Je souhaite à chacun d'entre vous de pouvoir dire oui. Tout ce que je fais, tous les moments de ma journée, c'est des moments de disciple de Jésus-Christ. Et j'aimerais vous rappeler, en même temps qu'on finit cette première moitié, cette première partie, Matthieu 19 à 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Jésus était avec ses disciples. par la prière, pour les aider à former des disciples. Et on peut se poser la question, est-ce que faire des disciples est optionnel? Est-ce qu'on peut être chrétien et ne pas faire de disciples? J'aimerais vous lire ce que Jésus a dit à ses disciples et à tous ceux qui étaient là à la fin de son ministère. Faites de toutes les nations des disciples. Est-ce que c'est, si vous pouvez, je vous encourage à faire? C'est quoi comme temps pour ceux qui connaissent la grammaire française? Faites, c'est quoi?
L'impératif.
L'impératif. Un impératif, c'est pour un commandement. Donc c'est un ordre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc c'est un des commandements de Jésus de faire des disciples. Et ensuite, il leur dit quoi? Verset 20. Enseignez-leur à observer quoi? Tout ce que je vous ai prescrit, tout ce que je vous ai commandé. Une des choses qu'il a commandé, c'est quoi?
De faire,
des disciples. Donc, est-ce que c'est une option? Ou est-ce que ça fait partie d'être chrétien, de faire des disciples? Rien que dans ces deux versets, vous avez clairement le fait que être disciple de Jésus-Christ, c'est faire des disciples. Les deux sont intimement liés. Et Jésus sera avec nous. On ne fera pas des disciples de nous-mêmes. Nous sommes appelés à être disciples jusqu'à la fin du monde en faisant des disciples. On a à faire notre, faire sienne la vision de Jésus. Cette vision de Jésus, c'est comment Dieu veut transformer l'humanité. Cette vision de Dieu, c'est comment Dieu veut toucher quelques-uns. Qui touche quelques-uns, qui touche quelques-uns, qui touche quelques-uns. Si moi j'arrive, par la grâce de Dieu, à faire 12 disciples, avec Sandra, si on arrive à faire 12 disciples, et que ces 12 disciples font 12 disciples, ça fait combien de disciples ça? 12 fois 12, ça fait 144. Si ces 144 personnes font chacun 12 disciples, ça fait combien ça? On est déjà à plus de 1000. Mon but à l'Église, c'est pas d'être celui qui forme chacun d'entre vous en tant que disciple, mais d'être sûr que chacun d'entre vous, vous êtes dans une relation de disciple, que vous êtes formé, que vous avez un temps. Et je demande pardon au Seigneur de ne pas l'avoir clairement enseigné dans la première année. Je suis arrivé, on a fait Église, au mieux des capacités, des connaissances que j'avais, mais à travers le temps que j'ai passé en Afrique du Sud, c'est comme si le Seigneur m'a rappelé. Il n'y a personne qui est venu me dire « Bon Stéphane, est-ce que tu as fait cette chose-là » Non, personne n'est venu me le dire. La personne qui est venue me le dire, c'est le Seigneur, qui m'a dit « Stéphane, où tu en es toi ?» À aider les personnes à la réunion, à être disciples et à faire des disciples. Et c'est ma responsabilité de vous y encourager. La semaine prochaine, on va continuer sur ce thème pour que vous puissiez être encouragés. Pendant cette semaine, j'aimerais vous poser la question. Qui est la personne que vous formez en tant que disciple? Mais avant cette question, qui vous forme en tant que disciple de Jésus-Christ? À qui vous pouvez parler quand vous n'avez pas fait ce que Dieu voulait? Quand vous vous sentez que vous avez à avancer, qu'il y a des endroits de votre vie qui ont à être mis à la lumière de Dieu? Quand vous avez besoin de prière? Est-ce que vous avez une personne à qui vous pouvez venir en disant « Cette personne est la personne auprès de qui je peux venir en confiance ?» Ça, on ne peut pas le faire en communauté avec beaucoup de gens autour. C'est quelque chose qu'on va faire un à un. Si vous n'avez personne, je vous encourage, priez. S'il n'y a personne qui a un exemple de Jésus-Christ de qui vous voulez apprendre, alors vous ne pourrez pas grandir. Demandez au Seigneur. De qui est-ce que tu veux apprendre? Qui est la meilleure personne pour m'aider à être disciple? Je vous demande pendant cette semaine de prier et de discerner et de pouvoir dire oui, je vois que c'est cette personne. En sachant que je vais vous encourager ensuite à être en mesure de partager, d'ouvrir votre cœur avec cette personne, d'abord de demander si cette personne accepte et a le temps pour faire cela. Parce que ça marche dans les deux sens. Disciple et formateurs de disciples se choisissent mutuellement. Ce n'est pas automatique. On ne peut pas venir, Oui, je veux que toi tu sois mon faiseur de disciples, qui me forme en tant que disciple. J'aimerais qu'on se rencontre le samedi à 3h de l'après-midi et j'aimerais qu'on parle toujours que de ce sujet-là. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça sera de trouver ensemble un temps par semaine où vous pouvez vous rencontrer. Ça sera aussi être prêt à être guidé, être prêt à faire confiance à la personne qu'elle va vous mener à être disciple, non pas d'elle-même, mais de Jésus-Christ. On n'est pas disciple d'Apollos ou de Paul ou de Pierre, on est disciple de Jésus-Christ. Donc je vais finir par un temps de prière et je vous invite à prier, à discerner clairement pendant cette semaine. À qui est-ce que je sens que je peux demander de m'aider pour être formé en tant que disciple, afin que moi-même, je puisse former des disciples. Prenons un temps de prière. Seigneur Jésus-Christ, tu nous invites à être disciples et à faire des disciples. Oh Seigneur, je sais bien que prêcher le dimanche n'est pas suffisant, parce que quand je prêche, je n'écoute pas. Et nous avons besoin d'être écoutés, chacun d'entre nous, dans nos combats. Mais au-delà d'être écoutés, d'être encouragés, on a besoin d'entendre quelqu'un qui prie pour nous, qui discerne où on en est avec nous, afin que nous puissions marcher avec Jésus-Christ, grandir avec Jésus-Christ. Seigneur, donne à chacun d'entre nous de pouvoir dire oui, je sais qui me forme en tant que disciple. Je sais qui me forme, qui m'aide à croître en tant que ton disciple pour briller de ta lumière, Seigneur Jésus-Christ, pour faire ta volonté dans ce monde et pour que beaucoup soient touchés. Que ce monde où il y a tant de ténèbres, d'amertume, de dureté, soit transformé par ta vérité, ta sainteté et ta gloire. En ton nom, je prie, Seigneur Jésus-Christ, guide-nous pendant cette minute. Amen. Seigneur, tu sais que choisir une personne pour nous aider à marcher en tant que ton serviteur est un choix qui est important, parce que de ce choix découleront beaucoup de choses dans nos vies. Si nous ne le faisons pas, ça sera de ne pas croître ou de très peu croître en toi, de ne pas grandir beaucoup en tant que serviteur de Dieu. Aussi, donne-nous, Seigneur, de ta sagesse, afin que nous puissions grandir, nous épanouir en tant que tes serviteurs, des amoureux du Père Céleste, remplis de l'Esprit Saint, qui brillent de ta lumière et qui mènent d'autres à ta lumière. Merci, Seigneur Jésus-Christ, de nous guider. Amen.